Bonjour à tous, vous allez bien? Gloire à Dieu, moi aussi ça va bien. Vous avez vu notre nouvelle brochure, comme elle est belle. Miracle, ça s'appelle. Au début, on voulait faire 16 pages. Et puis après, j'ai dit non, on va mettre encore... Mais finalement, on n'a pas pu mettre toutes les photos de tous les miracles parce qu'il y en a trop. Il y a beaucoup de choses. C'est fou quand on va chercher dans les archives de voir tout ce que Dieu a fait au travers de nous. C'est magnifique, on peut être réjoui. Alors, elle fait 25 pages maintenant. Alors, donc, on va la mettre en PDF sur Internet, comme ça, les frères et sœurs, les chrétiens pourront télécharger la totalité, ou ils pourront prendre une page pour la distribuer, pour la donner à gauche, à droite, afin que l'Évangile soit encore plus rapporté avec la preuve que Jésus est vivant. Parce que quand on prêche, beaucoup de gens prêchent, hein, mais nous avons la possibilité de prouver que ce que nous disons est vrai. Amen. Avec l'action de Jésus dans les miracles. Ça, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Voilà, c'est bien, je suis content. Eh bien, on va lire dans Job ce matin. Job 38, versets 1 à 7. On a bien chanté, on a bien prié. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. Dieu vous bénisse. Job 38, 1 à 7. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance? Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il y a un peu ironique là. Hein? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations? Amen. Vous pouvez vous asseoir. En fait, Dieu continue comme ça dans tout le chapitre 38, dans tout le chapitre 39. Hein, il pose des questions, à Job, voilà, puisque tu es si intelligent. Et puis à la fin, au chapitre 40, verset 1, il dit, le Seigneur dit à Job, « Le donneur de leçons va-t-il chercher querelle au Tout-Puissant? Celui qui critique Dieu, a-t-il une réponse à tout cela? Dieu se moque un peu. Mes frères et sœurs, l'homme pose des questions à Dieu. Et étant donné que l'homme est ignorant, il ne se rend même pas compte qu'il est arrogant. Il pose des questions, il dit des choses dans son ignorance, c'est incroyable. Dieu a tout créé, mes frères et sœurs. Il a tout créé dans un but bien précis qu'il s'est fixé à l'avance avec tous les détails et même le méchant, la Bible nous dit, pour le jour de la destruction. Proverbe 16, 4, je sais que ça dérange beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Il a élu dès avant la fondation du monde ce qu'il veut avec lui pour l'éternité. Éphésiens chapitre 1, verset 4, je sais que ça embête beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Il sait tout, non pas seulement parce qu'il est omniscient, mais parce que c'est lui qui a tout préparé à l'avance. Est-ce que vous voulez bien vous donner la peine, mes frères et sœurs qui contestaient avec Dieu, je me permets d'être un peu ironique puisque Dieu l'est de temps en temps. Est-ce que vous voulez bien vous donner la peine de vous souvenir de Joseph? Joseph, dans la Bible, c'est le seul homme de qui on ne dit rien de négatif. Saviez-vous cela? Il y a Jésus, mais Jésus c'est un homme, c'est Dieu dans un homme. Mais un homme, un vrai homme, hein, le seul de qui on ne dit jamais rien de négatif. Eh bien Joseph, il avait un savoir, et c'est ce savoir qui l'a aidé tout au long de ses épreuves, tout au long de sa vie. Il savait que Dieu avait tout arrangé. Il avait une foi absolue, c'est ça la foi absolue. Ça lui permettait d'être fort dans toute situation, c'est-à-dire d'être gagnant dans toute situation. Lisez l'histoire de Joseph, vous allez voir, n'importe où il est, quand il est en prison, il devient le chef. Quand il est partout, c'est le meilleur, parce qu'il sait, il a cette foi. Alors, Dieu peut facilement le guider, le diriger, et c'est un esprit libre, il a été créé pour être ainsi. Et il dit à ses frères, alors qu'il vient d'être nommé premier ministre de Pharaon, il dit à ses frères sur qui il a pouvoir de vie ou de mort. Il dit, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé avant vous. Genèse 45, verset 5. Et au verset 8, il enfonce encore le clou au cas où les frères n'auraient pas compris, parce qu'ils sont quand même terrorisés. Ils disent, c'est le premier ministre, il a le droit de vie ou de mort sur nous. Il peut nous tuer s'il veut, il peut se venger, on l'a vendu quand même. Hein? Eh bien, il leur dit, en fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, au verset 8. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est pas vous. Eh, mais pourtant, quand on regarde le film, quand on lit l'histoire dans la Bible, eh ben, on voit bien que c'est des gens qui ont eu une sale idée de vendre leurs frères. Mais elle venait d'où, cette sale idée? C'est Dieu qui vous a obligé à me vendre aux Égyptiens. C'est Dieu qui l'a fait. Vous pensiez que vous étiez libre de le faire? Non. Si Dieu n'avait pas voulu, vous l'auriez pas, vous auriez pas pu le faire. Vous pensiez que vous avez le libre arbitre et que vous avez pu me vendre parce que vous étiez libre et que de toute façon Dieu n'y peut rien. Ensuite, il sera bien obligé d'arranger les bidons avec les actions que vous faites. Non, vous n'avez pas le libre arbitre. Quand vous avez décidé de me vendre, c'est Dieu qui avait décidé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Vous pensez avoir fait le choix de me vendre? Ben, pas du tout. C'est Dieu qui vous a inspiré cela. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes pour oser obscurcir les plans de Dieu? Il n'y a pas de ténèbres dans les plans de Dieu. Tout est lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Tout est lumière pour Dieu. Parce qu'il fait tout pour lui-même, il y a de la lumière dedans, il connaît tout, il sait tout, et ça n'est ténèbre que pour les gens de ténèbres. Et ils veulent enténébrer la chose en disant, les voies de Dieu sont impénétrables. Tout est lumière pour ceux qui marchent dans la lumière. Et même s'il semble qu'on ne voit pas, même s'il semble qu'on ne voit rien, par notre foi, on marche dans la lumière. Oui ou non? Amen. Il se sert même de Satan pour arriver à ses fins. Dieu se sert aussi des ignorants, des crétins, des imbéciles, des terroristes, de tout ça, et de tous ceux qui tiennent des propos sans connaissance. Job 38:2, parce qu'il a un plan, il sait où il veut en venir. Il connaît. Les gens parlent de construire, ils ne pourront pas construire si Dieu ne leur en donne pas le pouvoir. Mais de même, ils parlent de détruire, ils ne pourront pas le faire si Dieu ne leur en donne pas le pouvoir. Et vous qui faites le mal, eh bien continuez à faire ce pour quoi vous avez été créé. Continuez, continuez. Les frères de Joseph avaient été créés pour cette œuvre-là, celle de vendre Joseph aux Égyptiens. Quand on dit aux gens qui font le mal, repentez-vous, ils ne veulent pas se repentir, on les avertit simplement, c'est tout. Repentez-vous, vous ne voulez pas, mais continuez, ça ne nous gêne pas du tout. Ça ne nous gêne pas du tout. Ils ont été programmés, les frères de Joseph, pour cette œuvre, pour vendre Joseph aux Égyptiens. Parce que réfléchissez-y, sans eux, le peuple juif ne serait jamais allé en Égypte. Au bout de 400 ans, ils ne seraient pas rentrés en esclavage. Il n'y aurait pas eu de Moïse. Il n'y aurait pas eu de Moïse. Ça veut dire que, par exemple, dans ma Bible, il y aurait 262 pages qui manquent, le Pentateuque en entier. Moïse n'aurait pas écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis tous les passages qui parlent de Moïse dans la Bible, ils n'y seraient pas, puisque Moïse n'aurait pas été le libérateur d'Israël, parce qu'Israël ne serait jamais descendu en Égypte. Et pourquoi il ne serait jamais descendu en Égypte? Parce que les frères n'auraient pas vendu Joseph. Vous voyez, les livres de Moïse n'auraient jamais été écrits. Sans les vendeurs de frères, pas de Moïse. Sans les vendeurs de frères, pas de Pentateuque. Sans les vendeurs de frères, pas de Sinaï. Sans les vendeurs de fraises. Sans les vendeurs de frères, pas de 10 commandements. Ça fait rire, hein. Ils croyaient faire du tort à Joseph en le vendant. Il croyait faire du tort à Joseph en l'abandonnant. Il croyait faire du tort à Joseph en le rayant de la famille. Il ne savait pas qu'ils accomplissaient le projet de Dieu. Bien sûr, ils ont le mauvais rôle. Ah ben tant pis, moi je loue le Seigneur de ce que j'ai le beau rôle dans l'histoire. J'ai un beau rôle et je suis content de ma vie. Pas vous ?
Amen.
Leur haine contre Joseph, leur bêtise, leur méchanceté a été utilisée par Dieu et nous en bénéficions encore de nos jours, mes frères et sœurs. Sans les vendeurs de frères, pas d'histoire sainte. Tout le monde attend que je dise encore les vendeurs de fraises. Chaque fois que je dis les vendeurs, ils me regardent. Oh, non, j'essaie de ne pas me tromper. Hein. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible dit « Que peut me faire un homme ?» Voilà pourquoi la Bible dit « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. » 365 fois, « Ne crains pas. » Tout est entre les mains du Seigneur Tout-Puissant. Oui ou non ? Il tient le monde dans ses mains, il tient tout dans ses mains. Les frères de Joseph, ils croyaient assombrir les projets de Joseph. Joseph, il avait des projets extraordinaires basés sur des visions. Nous aussi, nous avons une vision. Et personne ne peut assombrir notre vision. Joseph, les frères de Joseph, ils croyaient assombrir la vision de Joseph. Oui, hein, tu crois qu'on va venir se prosterner devant toi? Tu crois que tu es supérieur à nous? Ils voulaient assombrir. Mais qui êtes-vous pour assombrir les projets de Dieu? Vous qui parlez, qui avez des propos sans intelligence, sans connaissance, sans rien du tout? Dit Dieu. Ils ont été odieux avec lui. Mais, en fin de compte, c'est eux qui l'ont fait asseoir sur le trône d'Égypte. Et tout le monde pousse un immense « Alléluia !» Et oui, et ce matin, pas par tes craintes, si tu continues à cultiver tout ça, tu doutes donc de l'amour de Dieu pour toi. Il ne faut pas que tu craignes. À quoi ça sert? Comme Job, si tu crains, Dieu te dit « Ok, qui es-tu ?» pour ne pas voir la lumière dans mes projets, c'est-à-dire pour mettre de l'obscurité dans mes projets. Pourquoi est-ce que tu veux mettre de l'obscurité dans mes projets? Pourquoi tu penses que c'est pas bien, que c'est tout, ça va me dire tout triste, que ça va plus être possible? Pourquoi tu penses ça? Hein? Qui es-tu pour ne pas voir de la lumière dans mes projets? Il faut voir de la lumière dans les projets de Dieu. Qui es-tu? Eh bien, tu es son enfant. Tu es son enfant. Il vit en toi. Par son esprit, il tabernacle en toi. Ça ne devrait pas être toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, par toi, au travers de toi. Parce que tant que c'est toi qui vis, eh bien, rien de vraiment bon ne peut sortir, ne peut émaner de toi. Pourquoi? Parce que ta mémoire elle est handicapée. Parce que toi, tu ne sais rien, toi, comme moi d'ailleurs. Lui, il sait tout, nous, on ne sait pas. Alors Dieu dit, mais où est-ce que tu étais quand j'ai créé le monde? Mais il le dit, tu étais avec moi. Verset 7, tu étais parmi les fils de Dieu et tu lançais des acclamations. Mais t'as oublié, hein? T'as oublié ça, t'as oublié. Mais Dieu a voulu que tu l'oublies. Alors Dieu te parle ce matin, tu as oublié qui tu es. Mais tu as oublié ton origine divine. Tu as accepté maintenant pour vrai l'opinion des gens, le pouvoir des gens, la méchanceté des gens. Tu crois que c'est du réel, ça? Quel malheur! Je ne me laisserai plus jamais impressionner par la vie des gens, par l'opinion des gens, par les actions des gens. C'est la vie de Dieu qui m'intéresse, c'est les actions de Dieu qui m'intéressent. Je sais que je suis dans sa main et il me conduira au but. Amen. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole. Dieu n'est pas seulement dans sa parole, il est la parole, il est ce qu'il dit. Et je crois que je suis ce qu'il dit que je suis. Il surveille constamment sa parole afin de la confirmer. Aucune des paroles de Dieu ne manque de puissance. Luc 1, 37, Dieu est tout puissant. S'il est tout puissant, il n'y a pas de place pour une autre puissance. C'est lui qui est puissant. Accepter la parole d'un faiseur d'obscurité, ça serait un péché pour un disciple de Jésus-Christ. Qui es-tu pour obscurcir mes projets par des propos sans connaissance? Job 38, 2. Vous voyez ce que ça signifie? Toi, tu obscurcis? Ah ben ça veut dire que t'es rien. T'es rien, t'es du néant. Arrête! Arrête, Dino! Tu lèves les yeux vers la lumière? Alors que tu es dans les ténèbres, parce que les ténèbres s'abattent sur toi, tu lèves les yeux vers la lumière, alors tu prouves par là que tu connais Dieu dans toutes tes voies. Tu le reconnais dans toutes tes voies. Proverbe 3, 6. Tu dois reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Si tu as la foi qu'il vit en toi, qu'il t'a pardonné, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a fait passer des ténèbres à la lumière, reconnais-le dans toutes tes voies. Dans tout ce qui t'arrive. Les ignorants, eux, ceux qui sont sans connaissance, qui obscurcissent le plan de Dieu, qui n'y voient pas la lumière, mais qui voient les ténèbres, qui trouvent que c'est difficile et qui se plaignent et qui murmurent, les ignorants, ils errent au pays des dieux multiples. Je vous explique. Ils errent au pays des puissances diverses. Il y a diverses puissances. Il y a Dieu d'un côté, et puis quand Dieu est en train de s'occuper de quelque chose, il y a le diable qui arrive pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Alors Dieu, il vient vite, puis il arrange les bidons. Et puis quand tout est arrangé, quand on est là en train de le louer, il dit, bon, je vais m'occuper ailleurs. Et le diable revient. Et puis, mais c'est quoi ça? Ils sont des gens errants au pays des puissances diverses. Il n'y a qu'une puissance, celle du Dieu tout-puissant qui se sert des machins-là, c'est-à-dire du diable, des démons, des crétins, des idiots, des ignorants. Il se sert de tout ça pour en arriver à son but. Et là, pour Joseph, c'était de le placer sur le trône. Pour Jésus, il s'est servi des crétins, des idiots, des traîtres, des méchants, pour mettre Jésus sur le trône éternel. Amen. Eux, ils croyaient le mettre en croix. Ça, c'était la petite histoire. En réalité, ils l'ont mis sur le trône. Pauvre Pilate, pauvre Hérode, pauvre Judas, pauvre foule de fous, d'ignorants. Il n'y a qu'une puissance, la puissance du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant se sert aussi des ignorants et des vendeurs de fraises, comme je le disais tout à l'heure, pour accomplir ses projets lumineux. Amen. Amen. Mais les vendeurs de fraises n'ont aucune puissance. Ils n'ont pas de puissance. Rien ne peut obscurcir le plan de Dieu, rien. Ils ne peuvent absolument pas mettre de ténèbres. Non, ils ne peuvent pas. Avant de naître, vous saviez ça. Et vous l'avez oublié en naissant parce que Dieu l'a voulu. Mais avant de naître, vous le saviez. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps où la connaissance augmente. Alors, cherchez à vous souvenir qui vous êtes. C'est ça la connaissance augmente. C'est pas la doctrine devient de plus en plus précise. Non, aussi un petit peu, mais bon, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est chercher à vous souvenir de qui vous êtes. Cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Et ceux qui ne cherchent pas, eh bien, qui continuent à ne pas chercher, qu'ils restent dans leur tâtonnement émotif, religieux et ridicule, c'est nos bouffons, ils nous font rire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils aiment ça. Mes frères et sœurs, nous sommes venus au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, nous étions ailleurs. Dites, je suis venu au monde. T'es venu d'où? On vient de quelque part. Nous venons de notre passé éternel. Nous étions ailleurs. Nos esprits étaient dans l'état absolu. Et nous nous sommes, malheureusement, depuis que nous sommes nés ici-bas, nous nous sommes habitués à l'esprit de la race humaine, avec tout ce que ça comporte comme limitation. Nous nous sommes habitués à tout ce que notre environnement représente pour nous. Et frères et sœurs, le péché des chrétiens aujourd'hui, c'est de croire dans la sagesse du monde. C'est de croire l'opinion des charnels. Mais celui qui aime la vérité, ah, ça c'est autre chose. Et qui met en pratique la présence divine, celui-là, eh bien, il est de plus en plus attiré vers le haut. Vous voyez, vous avez des gens qui veulent rester dans l'ignorance, eh bien, qu'ils y restent, mais ceux qui aiment la vérité, ils cherchent et ils trouvent. Ils trouvent quoi? Ils trouvent qui ils sont véritablement en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes aussi différents des gens du monde. Je le redis, il y a des gens du monde. C'est Jésus qui dit ça. Si Jésus le dit, j'ai l'autorisation de le dire. Il y a des gens du monde. nous sommes aussi différents des gens du monde qu'un cube d'acier aimanté l'est d'un cube d'acier qui n'est pas aimanté. Ça se ressemble, mais il y a une puissance dans le cube d'acier aimanté. Vous voyez? Vous voyez? Le vrai vous a créé. Jésus a dit, je suis la vérité. Le vrai vous a recréé. Et votre mémoire éternelle, elle est en train de s'éveiller. Vous êtes en train de vous réveiller. Quand vous êtes né, vous vous êtes en fait endormi. Vous croyez que vous vivez là. On vit un rêve, c'est un cauchemar presque, hein, quand on voit l'état de ce monde. Eh bien, le vrai vous a recréé. Dieu vous a recréé et votre mémoire éternelle est en train de se réveiller. Vous vous éveillez à votre divinité. C'est cela le réveil. C'est cela le réveil de l'épouse. Ce n'est pas 50 000 personnes qui lèvent leurs mains dans une réunion d'évangélisation. Ça, ce n'est pas un réveil, c'est un éveil. C'est les gens qui passent des ténèbres à la lumière. Mais le réveil, c'est un éveil à nouveau. À ce moment-là, vous prenez conscience de qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Vous êtes un être nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Vous savez, on dit Dieu a créé les cieux et la terre, point. Mais quelque temps après, il a créé un nouveau truc. Est-ce que vous savez quel nouveau truc il a créé? Juste après le déluge, il a créé l'arc-en-ciel. Vous vous en souvenez de ça? Eh bien, depuis que Jésus est mort sur la croix, depuis qu'il a détruit l'acte légal qui nous accusait, c'est-à-dire cette loi, depuis qu'il l'a cloué à la croix, depuis qu'il l'a détruit, qu'il en a détruit l'efficacité, eh bien, il a créé encore quelque chose de nouveau, pas un nouvel arc-en-ciel, mais une race d'humains nouveaux. Vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes une nouvelle race humaine. C'est ce que nous sommes. Et nous avons des pouvoirs différents. Vous avez vu tous ces films qui parlent de mutants, qui parlent de gens qui ont des pouvoirs, des machins, des trucs. Mais ils sont en train de pressentir que quelque chose se passe. Ils ont un vieux rêve de quelque chose de magnifique. Mais nous sommes dans cette réalité, nous. Nous sommes des nouvelles créatures ayant reçu des pouvoirs. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de parler en langue, c'est-à-dire le pouvoir de s'édifier soi-même. Nous avons aussi le pouvoir de retenir les péchés des vendeurs de frères. Nous avons aussi le pouvoir de ne pas retenir le péché des vendeurs de frères. Il ne faut pas l'ignorer, mes frères et sœurs. Vous avez ce pouvoir, il faut l'utiliser. Joseph, lui, il aimait Dieu. Et comme il aimait Dieu, ben, il aimait ses frères créés à l'image de Dieu. Il les aimait malgré tout, malgré ce qu'il leur avait fait, malgré ce qu'il lui avait fait. Parce qu'il connaissait la prédestination divine. Il savait que c'était Dieu qui arrangeait tout. Alors il les aimait, les pauvres. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Heureusement pour ses frères que lui, il savait. Parce que s'il n'avait pas su ça, les frangins est passé à la casserole illico presto. Vous comprenez? C'est le manque de connaissance qui rend encore plus méchant, qui rend les gens religieux cruel, implacable, jusqu'à devenir meurtrier, assassin. C'est vrai, mes frères et sœurs. Alors que celui qui sait, eh bien, il sait, alors, comme il a la bonne connaissance, il peut pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé. Ça ne veut pas dire que Joseph n'a pas pleuré dans sa prison. Ça ne veut pas dire que Joseph était ravi d'être là-dedans. Ça ne veut pas dire que Joseph, il n'a jamais dit « Oh là, dis donc, ça commence à venir long ». « Ah, oh, mais quand c'est que je vais m'en sortir ?» Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que Joseph, il s'est pas plaint de temps en temps à quelqu'un en disant « Ouais, mes frangins, c'est quand même des beaux dégueulasses. » Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que, en fin de compte, il savait quand même que c'était Dieu qui arrangeait tout et qu'il finirait par s'en sortir. Et alors, il pouvait les aimer. Et quand il s'est trouvé en face d'eux, ben, le choix était vite fait. Joseph aima ses frères. Qu'il ne le comprenait pas. Il ne comprenait pas Joseph quand il avait ses visions. Il ne le comprenait pas alors qu'il était le premier ministre. Il ne comprenait rien à rien. Ils n'aimaient pas les songes de Joseph. Ouais, tes histoires. Ouais, blablabla. Et ils n'aimaient pas. Ils l'ont abandonné en croyant qu'ils avaient raison de le faire. Les gens croient toujours qu'ils ont raison. pauvres ignorants. Vendeurs de fraises, vendeurs de frères, accusateurs de frères. Mais ils étaient manipulés par Dieu, ils ne le savaient pas. Il en faut des gens comme ça. Ben voilà. L'autre Joseph, c'est-à-dire Jésus. Joseph, il typifie Jésus. Mais la manifestation parfaite de Joseph, c'est Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Eh bien, ça doit être notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de parler. Père, pardonne-leur. C'est des ignorants. Ils ne savent rien. Bon, utilise-les pour me faire monter jusqu'au trône. Et pardonne-leur. Pardonne-leur. Soyons magnanimes. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, magnanime? Grand esprit. Vous savez, les songes de Joseph, pendant tout ce temps où il était vendu, trimballé sur un marché d'esclaves, vendu à Potiphar, séduit par la femme de Potiphar, fichu en prison, oublié en prison, pendant tout ce temps, les songes de Joseph se mouvaient comme se meuvent les étoiles, la lune et le soleil, et ils arrivent toujours au bon endroit quand il faut. Et ils ont fini par se réaliser, ces songes. Eh bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Eh bien, ça veut dire que Dieu ayant tout arrangé, Dieu, en ce moment, il médite. Et qu'est-ce que tu es, toi? Eh bien, tu es sa méditation faite chair. Tu vas arriver au point où tu dois arriver, comme les étoiles sont toujours au rendez-vous, comme la lune et le soleil sont toujours au rendez-vous. Ne doutez pas de cela. Vous êtes la matérialisation d'une partie du plan, du projet lumineux de votre Dieu d'amour. Marchez donc avec foi. Marchez en construisant avec Jésus. Marchez en construisant avec sa communauté. Marchez en aimant. Blessé? Oui, bien sûr. Mais relevez-vous. Abandonné? Oui, bien sûr. Mais jamais tout seul. Il y avait un chant qui disait ça quand j'étais jeune converti. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Je ne me rappelle plus après. Tu te rappelles le... Non, mais il était beau, il faut que je cherche, il était magnifique ce chant. Jésus est avec vous, il est avec vous dans la fournaise ardente, il était dans la fournaise ardente, il était, voilà. Il ne les a pas laissés tout seuls, hein. Il est avec vous à table, voici. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, j'ai le privilège, moi, de manger tous les jours avec Jésus à ma table, parce que Jésus vit dans chacun de vous. Puisque vous êtes pour lui, il est pour vous. Il exauce vos prières, il vous utilise pour relever l'indigent, il vous utilise pour rendre la vue aux aveugles, c'est pas magnifique tout ça? Oh, on a eu la visite de Nicolas cette semaine, il n'a pas pu rester longtemps parce que, voilà, il était... contacté par des hommes d'affaires, il a dû rentrer en catastrophe, mais il va peut-être revenir pour mon anniversaire. Parce que je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, c'est mon anniversaire vendredi prochain. Vous resterez peu de temps pour économiser, pour me faire un beau cadeau. Non, je suis resté pour rigoler, mais j'espère un cadeau quand même. Mais, donc, mais bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, Nicolas. Eh bien, c'est extraordinaire. Il me disait encore qu'il a invité des gens dans sa maison, ils sont rentrés là, ils sont assis sur le canapé, il n'y a plus rien. Parce qu'ils l'ont connu quand il n'avait rien du tout. Et frères et sœurs, c'est quoi tout ça? C'est la bénédiction de Dieu qui lui est tombée dessus. Au travers de qui, vous pensez? Au travers de qui, vous pensez? En grande partie, au travers de vous, mes frères et sœurs. C'est vrai, il ne faut pas oublier. On lui a donné un petit peu d'argent, il a acheté un petit terrain. Il a attendu un an ou deux, et puis il l'a vendu le double. Il en a acheté un plus gros. Il a attendu 2 ans, il l'a vendu, il l'a acheté, etc., etc. Et maintenant, il a pu payer cash, une maison magnifique, ce qu'il vient de faire Franck Williamo. La maison où il est, Nicolas, à l'heure actuelle, elle est plus belle que la maison où était ton père quand j'allais là-bas. C'est magnifique. C'est magnifique. Gloire à Dieu! Et devant le garage, qu'est-ce qu'il y a? Une Mercedes, la même que celle du président de son pays. Eh bien, voyez-vous, Dieu vous a utilisé pour des belles choses comme ça. Non, pour du bon, ça c'est du matériel, oui. Et tous les aveugles qui ont trouvé la vue, et tous les paralytiques qui marchent maintenant. Il y en a dans les églises, ils sont dans les églises ce matin, là-bas au Burkina, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Ils sont là en train de louer au Ghana. Ils sont là ce matin en train de louer Dieu. Pourquoi vous pensez qu'ils louent Dieu? pour son amour manifesté au travers de vous. Si vous n'aviez pas donné vos dîmes, si vous n'aviez pas aidé l'œuvre de Dieu, il ne pourrait pas être là. Il serait encore paralytique, encore aveugle, encore... Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu exauce vos prières. Dieu vous utilise pour relever l'indigent. Dieu vous utilise pour rendre la vue aux aveugles. Il vous utilise pour aussi fermer la bouche des religieux pleins d'arrogance et de crétinisme aigu. Il est avec vous. Il est aussi avec eux pour les utiliser. Et nous aussi, il est avec nous pour nous utiliser. Et il surveille sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes du bon côté. Amen. En ce moment... Dieu, Jésus, il s'est levé sur son trône, où il est assis depuis à peu près 2000 ans. Quand on dit qu'il est assis, c'est-à-dire il est assis sur son trône, c'est-à-dire il règne, mais il règne en tant qu'avocat, il plaide pour nous, il plaide pour le monde. Et maintenant, il vient de se lever, il est agneau de Dieu, il a une allure d'agneau qui a été immolé, sacrifié, il est ensanglanté. Mais il va se transformer en lion. Il va se transformer en lion. Et là, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de repentance possible. Ça sera la fin. Alors, quand ça sera là, quand il sera transformé en lion, c'est là que ceux qui se souillent ne pourront plus faire autre chose que de se souiller encore. Et ceux qui n'auront pas pris l'habitude de se sanctifier ne pourront pas commencer à se sanctifier. Regardez Apocalypse 5, 6. Jésus, l'agneau, il est encore là, plaidant pour les vendeurs de frères, plaidant pour les pécheurs, plaidant pour les vierges folles. Il est encore là, plaidant. Il prend le livre scellé des sept sceaux au chapitre 6. Ensuite, quand il ouvre le premier sceau, il le lit. Et quand il le lit, les choses qui y sont écrites se produisent sur la terre. Premier sceau, il casse le deuxième. Deuxième sceau, il casse le troisième. Troisième sceau, les choses s'accomplissent sur la terre. Casse le quatrième sceau et les choses s'accomplissent sur la terre. Et maintenant, il a cassé le quatrième sceau. Et le quatrième sceau, il a bientôt fini de le lire. Il a bientôt fini de lire ce qui est écrit dans le livre de l'histoire de ce monde sous le quatrième sceau. L'agneau qui tient le livre, quand il a fini de lire le quatrième sceau, il rugit comme un lion. Vous trouvez ça dans Apocalypse 10, 2, 3. L'agneau qui s'est levé de son trône d'intercesseur, il ouvre le livre, les quatre sceaux sont brisés, et quand le cinquième sceau sera brisé, il ne sera plus un agneau, mais sera un lion. Voilà le projet de Dieu. Qui obscurcira ce projet par un manque de connaissance? Personne. Dieu fera ce qu'il a dit, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu fait ce qu'il dit, toujours. Et si tu as besoin de te repentir, mon frère, ma sœur, ne tarde pas parce que le temps est arrivé. C'est sur le point d'arriver où ceux qui se repentiront ne seront plus entendus parce qu'il ne sera plus l'agneau de Dieu qui plaide, il sera le lion qui juge. Car Jésus ne sera plus un avocat, il sera leur juge. La parole les jugera. Quelle parole? La parole écrite. Oh mais Michel, la parole écrite est le sujet d'interprétation. Pour ceux qui sont dans les ténèbres. Qui es-tu pour oser obscurcir une telle parole, un tel projet? Il n'y a pas trois possibilités. Qui es-tu? Il n'y a pas trois possibilités. Il y en a deux, parce qu'il n'y a que deux endroits où passer l'éternité. Amen. Jésus, je te prie pour que ceux qui comprennent ces choses continuent en prenant courage. Pour que ceux qui comprennent ces choses et qui ont besoin de repentance se repentent, se relèvent et se mettent en marche. Je te prie, Seigneur, que ceux que tu as créés dans le but de les détruire continuent leur œuvre pour laquelle ils ont été faits. Et je te loue en toutes choses, Père, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci de relever au milieu de nous et ceux qui écoutent ce message, ceux qui ont besoin d'être relevés. Bénis-les, rassure-les, console-les. Mais montre-leur que ces choses sont vraies, qu'un peu de connaissance éloigne de Dieu, mais que beaucoup de connaissance rapproche de Dieu. Donne-leur d'apprendre ces choses pour les comprendre, afin de conformer leur vie à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.